depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président Maduro rejette l'ingérence américaine dans les élections vénézuéliennes. La Norvège ferme son bureau de représentation en Palestine. L'UNICEF met en garde contre la situation désastreuse des enfants au Soudan en raison de la guerre. Chacun de nous présente maintenant le journal en complet. Le président vénézuélien Nicolas Maduro rejette l'ingérence des États-Unis dans le processus électoral dans son pays. Maduro a déclaré aux journalistes, il rejette fermement les tentatives du gouvernement américain de devenir l'autorité électorale au Venezuela ou ailleurs dans le monde. Le président américain Joe Biden a exprimé son soutien à la tenue des élections présidentielles au Venezuela. Cependant, il n'a pas fourni l'explication sur sa position. Les élections présidentielles au Venezuela ont eu lieu le 28 juillet et le Conseil national électoral a confirmé Maduro comme président élu pour la période 2025-2031. Des manifestations ont éclaté le lendemain et ont provoqué des affrontements entre les manifestants et la police. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées pour atteinte aux infrastructures de l'État, discours de haine et terrorisme. Selon le ministère norvégien des Affaires étrangères vendredi, la Norvège a fermé sa représentation en Palestine après que le gouvernement israélien a décidé de révoquer l'accréditation des diplomates norvégiens travaillant sur le territoire de l'autorité nationale palestinienne. Au début d'août, le ministère israélien des Affaires étrangères a révoqué l'accréditation d'un diplomate norvégien qui travaillait au bureau de présentation norvégien pour assurer la liaison avec l'autorité palestinienne. La raison, un État qu'Israël n'était pas d'accord avec la politique d'Oslo, qu'il était considéré comme unilatéral concernant le Moyen-Orient. Le ministère norvégien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'à la suite de la décision du gouvernement Netanyahou de ne plus faciliter la représentation norvégienne auprès de l'autorité palestinienne, notre bureau de représentation à la ville d'Al-Ram en Palestine doit être fermé à partir de vendredi. Mais selon le communiqué, la Norvège continuera à soutenir l'autorité palestinienne et le peuple palestinien de toutes ses forces. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ou UNICEF prévient que les enfants au Soudan sont confrontés à une situation de plus en plus dangereuse en raison de la guerre civile, des féroces et de la crise climatique. Cette situation pourrait causer des dizaines de milliers de décès d'enfants dans le mois à venir. Le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, a souligné, comme l'a rapporté Anadolu vendredi, que le Soudan connaît le plus grand déplacement d'enfants au monde. Elder a souligné que la guerre a touché 5 millions d'enfants pendant près de 500 jours. Il a appelé à la reprise des négociations entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Elder a également exhorté la communauté internationale à accorder plus d'attention à la crise soudanaise. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur de Tours en Indonésie, Talib Kucukan, a félicité l'Indonésie à l'occasion de son 79e anniversaire et estime que les relations entre les deux pays continueront d'être productives et brillantes. Kucukan a été rencontré vendredi après avoir assisté à la session annuelle 2024 au complexe parlementaire de Senayan, Jakarta, affirmant que la Turquie et l'Indonésie ont un grand potentiel pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment lorsque les deux pays commémoreront le 75e anniversaire de leur relation bilatérale en 2025. Il a également déclaré que ce potentiel est soutenu par la position de l'Indonésie en tant que plus grand pays en développement d'Asie du Sud-Est et l'un des plus grands au monde. Il espère que la Turquie et l'Indonésie pourront continuer à renforcer leurs relations économiques, politiques et aussi dans le secteur de la sécurité. L'ambassadeur de Turquie a souligné la visite du ministre de la Défense et président élu indonésien Prabowo Subianto dans son pays fin juillet. Au cours de la visite qui a eu lieu le 29 et 30 juillet 2024, Prabowo a rencontré un certain nombre de responsables turcs, y compris le président Recep Tayyip Erdogan, et visiter le Centre de développement de la technologie des arts Bayraktar. L'ambassadeur du Mozambique en Indonésie, Belmiro José Malat, a exprimé son espoir que les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Mozambique se renforceront à l'avenir. L'ambassadeur, après avoir assisté à la session annuelle du MPRRI au bâtiment du Parlement vendredi, a déclaré que l'année dernière, le président indonésien Joko Widodo avait visité son pays et que c'était une excellente occasion d'approfondir les relations entre les deux pays. Il espère que les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Mozambique se poursuivront au sein du nouveau gouvernement indonésien. Concernant le discours d'État du président lors de la session annuelle du Parlement 2024, l'ambassadeur Malat a apprécié les réalisations réalisées par le gouvernement indonésien, comme indiqué dans le discours. On dit que le discours du président cette fois est très clair et montrant les réalisations qu'il a accomplies dans le développement de l'Indonésie et la prospérité du peuple indonésien. Il espère que l'Indonésie sera encore plus prospère à l'avenir. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que la mise en œuvre d'une industrie verte dans le pays est également une solution pour faire face à divers défis mondiaux tels que l'atténuation du changement climatique et l'accélération de la décarbonisation. Agus Gumiwang Kartasasmita, dans un communiqué à Jakarta samedi 17 août, a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie dispose de plus de 3600 gigawatts d'énergie verte provenant d'énergies renouvelables, telles que l'eau, le vent, le soleil, la géothermie, la vague océanique et la bioénergie. Par conséquent, selon lui, l'Indonésie doit continuer à être cohérente dans la mise en œuvre de la promotion de l'industrie verte. Pour réaliser la mise en œuvre d'une industrie respectueuse de l'environnement, son parti a établi une normalisation de l'industrie verte qui, dans ses normes, il y a des indicateurs de réduction de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de contribution renforcée déterminé au niveau national de 912 millions de tonnes en 2030. Selon Agus Gumiwang, l'industrie verte peut également être utilisée comme un outil de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre des objectifs prédéterminés. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique. Intitulé Le consulat général d'Indonésie à Sydney renforce 75 ans de relations avec l'Australie à travers la musique. Le consulat général de la République d'Indonésie à Sydney, l'Australie, en collaboration avec l'Institut australien de musique et Santé Infini, a organisé une soirée musicale intitulée Indonesia Music Night dans le but de renforcer les relations diplomatiques de 75 ans. Le consulat général de la République d'Indonésie à Sydney, Wedi Kurnia Buana, à travers un communiqué officiel reçu par Antara à Jakarta jeudi, a déclaré que cette soirée musicale était l'une des meilleures manifestations des liens forts entre les communautés des deux pays. Des spectacles musicaux qui ont également un lieu pour célébrer le 79e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie ont eu lieu à l'amphithéâtre de l'Institut australien de musique. Était présent à l'avènement des étudiants ou anciens élèves, personnels et les amis de l'Australian Institute of Music. Indonesia Music Night présente un répertoire spécial, une combinaison de musique classique et contemporaine qui présente la diversité et la richesse de la culture indonésienne et australienne. Le consulat général Wedi a également exprimé sa gratitude et son appréciation à l'Institut australien de musique et Infinity Health pour leur dévouement au renforcement des relations entre l'Indonésie et l'Australie. Il a souligné que la musique est un langage universel qui transcende les frontières culturelles. Grâce à la musique, les peuples des deux pays peuvent se connecter, comprendre, faire preuve d'empathie et collaborer. Ce message a également été repris par des musiciens indonésiens bien connus, l'ancien élève et partenaire de l'Australian Institute of Music, tels que Indra Lesmana, Dwiki Darmawan et Iwayan Balawan via un message vidéo. Il souligne que la musique est un langage universel qui peut rassembler les parties depuis divers horizons et un moyen de diplomatie douce qui peut ouvrir de nombreuses opportunités de collaboration, créer des ponts entre les cultures et les nations, ainsi que renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Australie. Pendant ce temps, le responsable de l'engagement éducatif et de l'apprentissage à l'Institut australien de musique, Julian Goh, a exprimé sa fierté de pouvoir participer à cet événement et d'organiser pour la première fois des activités pour commémorer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Australie. Pour soutenir la promotion l'Indonésie Piment le Monde lors de l'événement, divers plats typiques indonésiens ont été servis, y compris des gâteaux klepon, pastels, gâteaux étagés et rissoles. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 17 août 1945, l'Indonésie a proclamé son indépendance. La proclamation de l'indépendance indonésienne a eu lieu le vendredi 17 août 1945. Le texte de la proclamation a été lu par Soekarno, accompagné de Muhammad Hatta. La proclamation de l'indépendance indonésienne a eu lieu à Jalan Pegangsaan Timur numéro 56 dans le centre de Jakarta. Auparavant, Muhammad Hatta avait demandé aux jeunes travailleurs à l'agence de presse de Mei de reproduire le texte de la proclamation et de le diffuser. Le 17 août 1945, vers 5h, les représentants des groupes jeunes vieux avaient fini de rédiger le texte de la proclamation qui est signé par Soekarno-Hatta selon la proposition de Soekarni. Ils ont convenu de proclamer l'indépendance de l'Indonésie à 10h30, heure de l'Indonésie occidentale. La lutte suivante consistait à distribuer le texte de proclamation. L'une des personnes qui ont contribué à diffuser la nouvelle de la proclamation de l'indépendance était Yusuf Ronodipuro, présentateur à Radio Hoso Kyoko. Yusuf Ronodipuro avait été aidé par Bahtiar Lubis et Ju Saragi pour tenter d'améliorer les aspects techniques de la radio, parce que à cette époque, les chaînes radio étaient étroitement gardées par les compétailles et plusieurs chaînes étaient coupées. À 7h du soir, Yusuf Ronodipuro a diffusé le texte de la proclamation en indonésien, tandis que la version anglaise était lue par Suprapto. La nouvelle de l'indépendance se répandait dans tout l'archipel et à l'étranger. Le 17 août 1950, la première cérémonie de célébration de l'indépendance a eu lieu au Palais Merdeka. La cérémonie commémorative de l'indépendance de la République d'Indonésie a été marquée par la levée du drapeau patrimonial Kusup par Fatmawati. La cérémonie commémorative du premier jour de l'indépendance de la République d'Indonésie, le 17 août 1946, a eu lieu dans la cour du Palais d'État de Yogyakarta. Le président Soekarno est devenu l'inspecteur des cérémonies. La cérémonie a également été assistée par le vice-président Muhammad Hatta, le commandant en chef général Sudirman et des ministres. Pendant ce temps, la cérémonie au Palais Merdeka Jakarta a eu lieu pour la première fois le 17 août 1950. Sitang Indonesia.go.id, ce moment a coïncidé avec le retour d'exil de Soekarno sur l'île de Bangka au début des années 1950, après la conférence en table ronde décembre 1949 comme reconnaissance de l'indépendance indonésienne par les Néerlandais. Ensuite, chaque 17 août au Palais Merdeka, une cérémonie est organisée pour commémorer les moments de la proclamation de l'indépendance avec une cérémonie de levée du drapeau du patrimoine. En 1968, le drapeau du patrimoine n'est plus hissé pour conserver sa valeur historique. Comme remplacement, les drapeaux en double étaient fabriqués à partir de soie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sets the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ye. Sucking money so thick like a Kim Kardashian. Wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort and you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace and get to the future in your galactic.
Ain't gotta give up, none to bring me down. Ain't gonna give up. None can bring me down. You ain't gonna give up. None can bring you down. You ain't gonna give up. None can bring you down.
First, I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking, but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks stagnant. Go down in history. It's so much, you end up in misery. Used to be a sad girl with no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one? Hell nah, boy, if you know what you want.
Ain't gonna give up, don't give up, don't give up, none can bring me down.
Yeah,
ain't gonna give up,
come on,
none can bring me down, nothing can bring you down, nothing can bring you down.
Yeah.
Ain't gonna give up,
don't give up, don't give up,
ain't none can bring you down. You ain't gonna give up,
don't gonna give up now,
none can bring you down.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons présenter le Canada espère une coopération plus étroite avec l'Indonésie à l'avenir. Le Canada s'engage à continuer de renforcer ses relations bilatérales avec l'Indonésie. Lors d'une réunion avec le ministre coordinateur des affaires économiques Erlangga Hartarto, l'ambassadeur du Canada en Indonésie et au Timor-Leste, Jess Dutton, a déclaré avoir transmis cet engagement. L'ambassadeur a personnellement déclaré que le ministre coordinateur Erlangga est un ami du Canada. D'accord avec l'ambassadeur Dutton, Erlangga Hartarto estime que la coopération entre les deux pays continuera à se renforcer et se poursuivra au cours de la prochaine période du gouvernement indonésien. Lors de la réunion qui a eu lieu au bureau économique, Erlangga Hartarto et l'ambassadeur Jess Dutton ont discuté de plusieurs sujets stratégiques, notamment les progrès de négociations sur la cote de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada. Le ministre coordinateur Erlangga espère que ces négociations pourront être achevées rapidement au cours de la période gouvernementale actuelle. L'ambassadeur Dutton apprécie le plein soutien du ministre coordinateur Erlangga pour l'achèvement immédiat de ICA-CEPA. Comme on le sait, la 8e ronde de négociation ICA-CEPA a eu lieu à Ottawa en juin 2024. et se poursuivra lors de la 9e ronde de négociations à Toronto en septembre 2024. L'ambassadeur Dutton a également annoncé des plans pour une mission commerciale canadienne en Indonésie qui aura lieu en décembre. Il a déclaré qu'une délégation d'entreprises canadiennes viendrait explorer le potentiel de coopération dans divers secteurs, notamment pour comprendre la réglementation commerciale en Indonésie. Au cours de la réunion, le ministre Erlangga Hartarto et l'ambassadeur James Dutton ont également discuté du secteur de l'énergie propre. Le gouvernement indonésien est en train de mener une étude de faisabilité pour le développement de petits réacteurs modulaires dans le Kalimantan occidental et le Canada est prêt à soutenir cet effort à l'avenir. À la fin de la réunion, le ministre Erlangga a apprécié le soutien du Canada au processus d'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique. Il a également estimé que le processus d'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique pourrait devenir un parapluie pour accélérer la réforme économique de l'Indonésie. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
honey, honey, you are so lovely. I think I'm crazy.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique magazine culturel intitulée Monument de kebulatan tekad à Rengas Dengklok à Java West. La résidence de Karawang est une zone située à 97,4 km à l'ouest de la ville de Bandung. Auparavant, ce quartier était connu comme une grande arie, mais maintenant il est devenu une zone industrielle. Cette région est surnommée la ville de base de la lutte, parce qu'un certain nombre d'événements historiques de la nation indonésienne se sont produits dans le district de Karawang, comme la bataille entre les combattants de la liberté indonésienne et les colonialistes hollandais et japonais à Karawang le 19 septembre 1945. Le monument de kebulatan tekad situé à Rengas Dengklok dans le district de Karawang à l'ouest de Java est devenu une source d'inspiration pour la population de Karawang, notamment dans la lutte et la défense de l'indépendance. Il est le symbole historique qui représente la lutte et la détermination du peuple indonésien pour obtenir l'indépendance. Kebulatan tekad, en français, est quelqu'un qui a une forte détermination à atteindre un objectif. Le monument de kebulatan tekad est aussi un hommage à l'ancien quartier général des défenseurs de la patrie, ou PETA. PETA est une organisation militaire fondée par le Japon lors de leur occupation en Indonésie. Le monument de kebulatan tekad se trouve à côté du monument de proclamation et de la maison historique Rengas Dengklok, où Soekarno et Mohamed Hatta ont été exilés par un groupe de jeunes de Jalan Menteng, 31, Jakarta. Ce monument historique, qui fait partie d'une série de commémorations de la lutte pour la souveraineté de l'Indonésie, a été inauguré le 17 août 1950. Ce monument est également connu du public sous le nom de Monument Proclamasi et situé entre l'autoroute du Monument de la Proclamation et de la rue Alun-Alun, le village du sud de Rengas Dengklok, le district de Rengas Dengklok, Karawang. Le monument de kebulatan tekad, également connu sous le nom de Monument Rengas Dengklok, a une signification philosophique. La base du monument représente la lutte de tout le peuple indonésien pour obtenir son indépendance. Le corps rectangulaire de monument signifie l'unité de lutte de la nation indonésienne. Le cercle de monument représente la détermination à conquérir l'indépendance de l'Indonésie, tandis que le point gauche est un symbole de maintien de l'indépendance autonome. Et les chaînes et les poteaux symbolisent le lien fort de tout le peuple indonésien avec Pancasila. À l'occasion du 79e anniversaire de l'indépendance indonésienne, on espère que la détermination proclamée par les combattants de la liberté du passé restera gravée dans la poitrine de chaque peuple indonésien, quelle que soit son appartenance ethnique, sa religion et ses choix politiques, et qu'elle continuera à défendre l'harmonie, l'unité et l'honnêteté au sein de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Sapa hari yang indah ini, embun pagi menemani. Kan ku jalani hariku, sambut semua mimpi, sambut dengan nyanyi.
Dengar suara hati berbisik, oh indahnya pagi ini. Kan ku bawa semua
cinta, dunia sedang gembira. Nada-nada irama hati riang,
ku menyambut hariku yang baru.
Langkahkan kakimu dengan pasti, buang semua ragumu, percayalah pada semua mimpi.
Ku senandungkan sebuah lagu cinta, dunia sedang gembira. Dunia sedang gembira, nada-nada irama hati riang, ku menyambut hari ini. Kan ku sambut hariku yang baru.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Pour cette fois, c'est une édition spéciale du jour de l'indépendance. Nous sommes avec les Paskibraka, les troupes qui hissent le drapeau du patrimoine de Sangsaka Merah Putih dans la capitale de l'archipel. La cérémonie commémorative du 79e anniversaire de la République d'Indonésie est très spéciale. Cette année, la cérémonie du drapeau a eu lieu dans la capitale de l'archipel avec le palais Garuda comme lieu principal. La troupe de hissation du drapeau du patrimoine au Paskibraka et au centre des préparatifs a pris avoir subi une sélection stricte et une formation intensive au parc Wiladita Cibubur. Paskibraka a suivi une concentration éducative qui comprenait la perspicacité nationale, le leadership et la marche. Ce processus se déroule du 13 juillet au 10 août 2024. Pour devenir membre de Paskibraka, les étudiants sélectionnés dans diverses provinces du pays doivent remplir diverses exigences strictes ayant d'une réussite académique supérieure, d'une discipline élevée à l'excellence capacité physique et mentale. De plus, ils doivent également avoir un fort caractère et être capables de travailler en équipe. Paskibraka est divisé en plusieurs équipes, à savoir la troupe 17 comme accompagnateur ou guide, la troupe 08 comme porte-drapeau et la troupe 45 comme garde, chacune ayant un rôle très crucial dans le bon déroulement de la cérémonie du drapeau. Les Paskibraka reçoivent une formation similaire dans le cadre de la formation de levée de drapeau qui a eu lieu chaque année et qui est une tradition depuis l'époque du président Suharto. Cette formation a été organisée pour la première fois par Hussein Mutahar en 1967 avec l'idée de célébrer l'indépendance à partir du 17 août 1946 à Yogyakarta. Qui sont les membres de l'équipe Paskibraka et qui abordera le drapeau du patrimoine est strictement confidentiel. À l'approche du jour, les informations concernant la formation de levée du drapeau lors de la cérémonie du 7 août sont annoncées le J1 jusqu'à 3 jours avant le début de la cérémonie. Et cela inclut également le cortège lors de la cérémonie de l'indépendance dans la capitale de l'archipel indonésien IKN. En dehors de cela, le défi de la formation et la mise en œuvre de Paskibra cette année sont quelque peu différents des années précédentes, car ils auront lieu à IKN Kalimantan S. Plusieurs facteurs tels que la météo et la disponibilité de l'eau préoccupent particulièrement les membres de Paskibraka, comme l'a déclaré le chef de l'Agence de développement idéologique de Pancasila, désormais en charge de Paskibraka 2024. Les Paskibraka, des lycéens sélectionnés de tous les coins du pays, font preuve d'un dévouement extraordinaire en tant que troupe Paskibra. Cela peut être vu de Fifandra Ardiansyah Daud des Moluques du Nord à Jonathan Gilbert Tanjawa, qui est fier de sa région Sulawesi du Nord, Kenina Evelyn Chandra de Yogyakarta, qui a d'abord été inspiré par Paskibraka à la télévision, a maintenant réussi à entrer dans l'histoire en faisant partie du drapeau de Sangsaka Merah Putih sur IKN. Pendant ce temps, l'inauguration du Paskibraka a été réalisée par le ministre d'État Pratikno à IKN le 10 août 2024, suivi du Karnaval Sangsaka Merah Putih de Jakarta à la capitale indonésienne. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Satu Tahun Lagi, chantée par Rayman. Cette chanson créée et popularisée par Rayman a été créée pour célébrer le 66e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie, sorti le 17 août 2021. Cette chanson est une expression de gratitude envers Dieu Tout-Puissant qui a aidé la nation indonésienne à traverser des temps sombres et qui a maintenu l'intégrité de la nation indonésienne en tant qu'État unitaire de la République d'Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici Rayman dont le titre est « Satu Tahun Lagi ». Bonne écoute!
Laut dan gunung sepanjang kau.
Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.